En gagnant mon pain, deuxième partie. Un soir, comme je triais dans la cour des os, des chiffons et toutes sortes de débris, Lyudmila s'approcha de moi, chancelante, en agitant la main droite. « Bonsoir, » dit-elle, et elle hocha trois fois la tête. « Kostroma jouait avec toi autrefois ?»«
Oui. »
« Et Tchurka ?»«
Tchurka n'est plus ami avec nous. » Et c'est de ta faute. Ils sont amoureux de toi et se battent. »
Elle rougit, mais répondit ironiquement. « Quelle idée ! En quoi suis-je fautive ?»«
Pourquoi les rends-tu amoureux ?»«
Je ne leur ai rien demandé, » dit-elle avec colère. Et elle s'en alla en ajoutant. « Ce ne sont que des bêtises. Je suis plus âgée qu'eux, j'ai 14 ans. On n'est pas amoureux des grandes filles. »
« Tu es bien renseignée ? » criai-je pour l'ennuyer. « La boutiquière, la sœur du Clist, est tout à fait vieille et elle s'amuse avec les garçons. »
Lyudmila revint vers moi en enfonçant profondément sa béquille dans le sable de la cour.
« C'est toi qui ne sais rien !» déclara-t-elle en parlant très vite avec des larmes dans la voix.
Ses yeux tendres se mirent à flamboyer.
La boutiquière est une femme débauchée. Et moi, suis-je comme elle? Je suis encore petite. On ne doit pas me toucher, ni me pincer, ni rien.
Tu ferais mieux de lire le roman de Kamchadal, deuxième partie. Tu pourrais parler après. Elle s'en alla en sanglotant. Elle me fit pitié. Ses paroles renfermaient une vérité que je ne connaissais pas encore. Pourquoi mes camarades la pinçaient-ils? Et ils se prétendaient amoureux. Le lendemain, désireux d'effacer ma faute, j'achetai pour 10 sous de sucre d'orge sa friandise préférée.
« Tu en veux ?»
D'un ton faussement irrité, elle me répondit « Va-t'en, je ne te parle pas. » Mais elle prit aussitôt les sucres d'orge en remarquant « Tu aurais pu les envelopper dans un papier, tu as les mains si sales. »
« Je les ai lavées. » Mais elles ne paraissent pas propres.
Prenant ma main dans la sienne, qui était sèche et brûlante, elle l'examina.
« Comme elle est abîmée !»«
Et toi, tu as les doigts tout piqués !»«
C'est l'aiguille, je couds beaucoup !»
Au bout d'un moment, elle me proposa, après avoir regardé si on ne nous entendait pas.
« Écoute, allons nous cacher et nous lirons la Kamchadal, veux-tu ? »
Nous cherchâmes longtemps un endroit où nous ne serions pas vus. Partout il y avait des inconvénients. Enfin, nous nous décidâmes pour la vieille chambre à lessive. Il y faisait sombre, mais on pouvait s'asseoir près de la fenêtre, d'où l'on découvrait un coin rempli d'ordures entre un hangar et un abattoir. Les gens n'y venaient pas souvent. Et Lyudmila s'installe sur un banc, la jambe malade allongée, l'autre jambe pendante. Le livre dépenaillé me cachait sa figure. Elle prononce avec émotion quantité de paroles pour moi sans signification et sans intérêt. Néanmoins, je partage son émotion. Assis par terre, je vois ses yeux graves qui se meuvent comme deux flammes bleues le long des pages. Parfois, une larme les humecte. La voix de la fillette frémit, en débitant avec rapidité des mots peu familiers pour moi et associés d'une manière incompréhensible. Pourtant, j'en saisis quelques-uns. J'essaie d'en former des vers, je les tourne dans tous les sens, ce qui m'empêche encore plus de me rendre compte de l'histoire. Sur mes genoux, mon chien sommeille. Je l'ai appelé le vent, parce qu'il a le corps allongé, des poils en broussailles, qu'il court très vite et grogne comme le vent d'automne dans les cheminées.
« Tu écoutes ?» demande la fillette.
J'incline la tête en silence. Cet embrouillamini m'excite de plus en plus. J'ai un désir violent de disposer les mots dans un ordre différent, comme dans les chansons, où chaque vocable vit et flamboie, telle une étoile au ciel. Lorsqu'il fit sombre, Lyudmila laissa tomber sa main exsangue qui tenait le livre et dit
« C'est beau, n'est-ce pas ?
Eh bien, tu vois ?» Depuis ce soir-là, nous allâmes souvent nous asseoir à la chambre à lessive. À mon grand plaisir, Lyudmila cessa bientôt de lire la Kamtchatdal. Je ne pouvais lui répéter de quoi il était question dans cet interminable livre. Interminable parce que la deuxième partie, par laquelle nous avions commencé, était suivie d'une troisième, et la fillette m'assura qu'il y en avait une quatrième. Quand il pleuvait, personne ne sortait, personne ne se hasardait jusqu'à notre recoin obscur. Lyudmila avait bien peur qu'on ne nous surprît. « Sais-tu ce que l'on croirait, alors ?» demandait-elle à mi-voix. Je le savais, et autant qu'elle, j'étais inquiet. Nous restions là des heures entières, parlant de n'importe quoi. Je répétais les contes de grand-mère, et Lyudmila me narrait la vie des Cosaques au bord de la rivière Medievitsa. « Ah, qu'il y fait beau !» soupirait-elle. « Mais ici, ce n'est que les pauvres qui y vivent !» Je résolus d'aller à tout prix, plus tard, voir cette rivière Medievitsa. Bientôt, nous n'eûmes plus besoin de la chambre à lessive. La mère de Lyudmila trouva du travail chez un industriel et quittait la maison le matin. La sœur cadette allait à l'école, le frère travaillait à la fabrique. Quand il faisait mauvais temps, j'allais chez la fillette, je lui aidais à faire les repas, à nettoyer la chambre et la cuisine. Elle disait en riant, « Nous deux, nous vivons comme mari et femme, sauf que nous ne dormons pas ensemble. Nous vivons même mieux, car un mari ne seconde pas sa femme. » Lorsque j'avais de l'argent, j'achetais des bonbons. Nous prenions le thé, puis nous refroidissions le samovar avec de l'eau pour que la mère de Lyudmila, qui criait à tout propos, ne devina pas que nous nous en étions servis. Parfois, grand-mère venait aussi, cousant ou faisant de la dentelle. Elle nous racontait des histoires merveilleuses. Quand grand-père s'en allait en ville, Lyudmila venait chez nous et nous jouions en toute liberté. Grand-mère disait « Ah, que nous sommes bien !» Elle approuvait notre amitié. « C'est très bien qu'un petit garçon et une petite fille s'accordent. Seulement, il ne faut pas faire de bêtises. » Et elle nous expliquait, en termes très simples, ce que signifiait « faire des bêtises ». Elle parlait d'une manière très belle, très élevée, et je comprenais fort bien qu'il ne fallait pas toucher aux fleurs avant qu'elles ne fussent épanouies. Sinon, elles n'avaient plus ni parfum ni fruits. Sans avoir envie de faire des bêtises, Lyudmila et moi n'en parlions pas moins de choses qu'il est convenu de taire. Nous en parlions évidemment par nécessité, car les rapports entre les deux sexes nous importunaient trop souvent sous leur forme grossière et nous faisaient trop souvent souffrir. Le père de Lyudmila, silencieux à l'extrême, était un bel homme d'une quarantaine d'années, aux moustaches et aux cheveux bouclés, aux épais sourcils, toujours en mouvement. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu prononcer une parole. Quand il caressait les enfants, il grognait comme un muet, et même quand il battait sa femme, il ne disait mot. Le dimanche, vers le soir, il mettait une blouse bleue, des pantalons bouffants, des bottes vernies, et il s'en allait au portail avec son grand harmonica pendu au dos par une courroie. Là, il se tenait comme un soldat dans la position du garde-à-vous. Aussitôt, le défilé commençait devant la maison. L'une après l'autre, les filles venaient, regardaient Evsianko à la dérobée, à travers les cils, ou franchement, avec des yeux avides. Il restait là, la lèvre inférieure un peu arquée, et ses yeux sombres toisaient les unes et les autres. Il y avait quelque chose de choquant, de cynique, dans ce dialogue muet des yeux. Il semblait qu'au moindre clignement d'œil, n'importe laquelle de ces femmes allait tomber sans connaissance sur le sable de la rue. « Voilà le bouc qui fait des siennes! Quel monstre !» grommelle la mère de Lyudmila. Grande et maigre, le visage allongé et terreux, les cheveux coupés ras,
Elle ressemble à un balai usé. Lyudmila est assise à côté d'elle et s'efforce en vain de détourner son attention. Elle la questionne sans relâche. « Laisse-moi, tu m'ennuies, petite horreur !» marmotte la mère, et ses yeux inquiets, fendus en amande, luisent, étranges, clairs, immobiles, comme accrochés à quelque effarant spectacle. « Ne te fâche pas, maman, ça n'a pas d'importance !» dit Lyudmila. « Regarde donc la vendeuse de nattes, elle est parée comme une chasse !»« Je m'habillerais mieux si vous n'étiez pas là, vous trois. Vous m'avez dévoré, vous m'avez rongé !» répond la mère d'une voix haletante et dure. Elle considère obstinément cette vendeuse, cette veuve épaisse, de taille et très grande. Elle a une silhouette de maison. Sa poitrine bombe comme un perron. Son visage rouge, coupé et surmonté d'un fichu vert, est pareil à une fenêtre de mansarde, à l'heure où les vitres reflètent le soleil. Evseyanko a fait glisser son harmonica sur sa poitrine et joue. L'instrument est bon. Le son vous entraîne irrésistiblement. De la rue tout entière, les marmots accourent, roulent aux pieds du musicien et demeurent immobiles et béats. « Attends un peu, on te tordra le cou !» lui crie sa femme. Evseyanko lui lance un regard de biais et ne répond pas. La grosse veuve s'est assise, non loin de là, sur le banc de l'épicier Clist, ramassée comme un tas. La tête penchée sur l'épaule, elle écoute et son œil flamboie. Sur la campagne, au-delà du cimetière, le crépuscule rougeoie. Dans la rue, comme sur une rivière, passent de gros paquets de chair, vêtus de couleurs bariolées. Les enfants tourbillonnent. L'air tiède caresse et enivre. Le sable échauffé par le soleil pendant toute la journée répand une odeur aigrelette, dominée par les effluves gras et douceâtres de l'abattoir et le fumé du sang. Des cours où habitent les tanneurs, arrive l'odeur âcre et salée des écorces. Le babil des femmes, les hurlements des hommes sous, les cris sonores des enfants, le chant grave de l'harmonica, tout se fond en un bruit confus. La terre, inlassablement créatrice, soupire puissamment. Chapitre 4. La nuit est proche. L'air souffle plus frais, le vacarme s'atténue. Les maisonnettes de bois semblent s'élargir en s'enveloppant d'ombre. On a emmené les enfants pour les coucher. Quelques-uns se sont endormis sur place, au pied des palissades ou sur les genoux des mères. Les plus grands s'apaisent quand vient la nuit. Evseyanko a disparu sans qu'on s'en aperçût. La grosse veuve n'est plus là. On perçoit les sons graves de l'harmonica au loin, derrière le cimetière. La mère de Lyudmila est assise sur le banc, le dos voûté comme une chatte. Ma grand-mère avait été prendre le thé chez une voisine, entremetteuse et sage-femme, personne maigre au nez de canard. La médaille d'or de sauvetage pendait sur sa poitrine plate et masculine. Toute la rue la craignait, la considérant comme une sorcière. On racontait qu'elle avait sauvé, pendant un incendie, les trois enfants et la femme malade d'un colonel. Grand-mère et elle sont très liées. Quand elles se rencontrent dans la rue, elles se sourient de loin avec sympathie. Nous sommes assis sur le banc, au portail, Kostroma, Lyudmila et moi. Tchurka a provoqué le frère de Lyudmila à la lutte. Ils s'étreignent, piétinent sur le sable et se démènent. « Finissez !» supplie la fillette d'une voix craintive. En louchant vers elle, Kostroma raconte l'histoire du chasseur Kalinin, un petit vieux aux cheveux gris, aux yeux rusés. Il avait fort mauvaise réputation dans le faubourg, où chacun le connaissait. Il est mort récemment, mais on ne l'a pas enterré dans le sable du cimetière. Son cercueil a été posé sur le sol, à l'écart des autres tombes. Ce cercueil est noir, assez haut sur pied, et le couvercle est orné d'une croix, d'une lance, d'un bâton et de deux os peints en blanc. On raconte que toutes les nuits, le vieillard sort de sa tombe et se promène dans le cimetière, où il cherche, sans se lasser, on ne sait quoi, jusqu'au premier chant du coq.
« Ne parle pas de ces horreurs !» supplie Lyudmila.
« Lâche-moi !» crie Tchourka en se libérant de l'étreinte du petit Evseyanko. Il dit avec un ricanement à Kostroma « Pourquoi ces plaisanteries? J'ai vu moi-même comment on a enterré son cercueil. Celui qui est au-dessus est vide. C'est un monument. »
Sans le regarder, Kostroma lui fait une proposition.
« Eh bien, va donc passer la nuit au cimetière, si c'est comme ça. »
Ils se mirent à discuter. Et Lyudmila, ennuyée, hochant la tête, demanda à sa mère
« Maman, est-ce vrai que les morts se lèvent la nuit ?»«
Oui, » répondit la mère d'une voix blanche. Le fils de l'épicière survint. Valek était un gros gaillard, d'une vingtaine d'années, au teint coloré. Il prêta l'oreille à la discussion et dit « Celui qui, pendant toute une nuit jusqu'au jour, se couchera sur la tombe, je lui donnerai 20 kopecks et 10 cigarettes. Mais s'il a peur, s'il se sauve, je lui tirerai les oreilles à mon plaisir. »
« Qui accepte ?»
Tous se turent, troublés, et la mère de Lyudmila déclara « Quelle bêtise ! Est-il permis de pousser les enfants à faire des choses pareilles ?»«
Si tu me donnes un rouble, j'y vais !»
proposa Tchourka d'un air maussade. Aussitôt, Kostroma demanda avec insolence
« Et pour 20 kopecks, tu aurais peur ?»
Et il expliqua à Valek « Donne-lui un rouble, il n'ira pas même à ce prix, tu vois bien qu'il se vante. »«
Eh bien, je donnerai un rouble. »
Tchourka se leva sans mot dire. Avec quelque lenteur, il s'en alla en rasant les palissades. Kostroma mit les doigts dans sa bouche et poussa un sifflement aigu en guise d'accompagnement. Lyudmila dit d'un ton anxieux
« Ah, mon Dieu, quel fanfaron! Qui l'aurait cru ?»«
Les beaux poltrons que vous faites !» cria ironiquement Valek.
« Et vous croyez les premiers batailleurs de la rue, petit crapaud ?»
Seladzi m'irritait et me blessait. Nous n'aimions pas ce garçon repu qui poussait toujours ses cadets à des tours stupides, leur racontait des histoires malpropres sur toutes les femmes et les filles et leur apprenait à les houspiller. Les plus jeunes lui obéissaient et souvent s'en trouvaient très mal. Il détestait mon chien pour des raisons inconnues et lui lançait des pierres. Une fois même, il lui tendit un morceau de pain où il avait enfoncé des épingles. Mais plus que de ses malices, je souffrais de voir Tchourka s'éloigner, tout pelotonné sur lui-même. Je dis à Valek, « Donne-moi le rouble, j'irai. » Tout en me raillant et en m'effrayant, il donna l'argent à la mère de Lyudmila, mais celle-ci lui dit avec sévérité, « Non, je ne veux pas. » Et elle s'en alla, très irritée. Lyudmila n'osa pas, elle non plus, prendre le billet, ce qui lui valut aussi les sarcasmes de Valek. J'allais me mettre en route, sans prendre l'argent du jeune homme, mais grand-mère survint, et quand elle fut mise au courant de l'affaire, elle accepta la coupure. Puis elle me dit paisiblement, « Mets ton pardessus et emporte une couverture, car il fait froid vers le matin. » Ces paroles me firent espérer qu'il ne m'arriverait rien de fâcheux. Valek posa comme condition que je devrais rester couché ou assis sur le cercueil jusqu'à l'aurore, sans en descendre sous aucun prétexte, même si le cercueil se mettait à vaciller quand le vieux Kalinine sortirait de sa tombe. Si je sautais à terre, je perdais.
« Prends garde !» me prévint-il. « Je te surveillerai toute la nuit. »
Quand je partis au cimetière, grand-mère fit le signe de croix sur moi et me conseilla.
« Si tu vois apparaître quelque chose, ne bouge pas, mais récite l'Ave Maria. »
Je marchais à grands pas. J'avais hâte de voir cette aventure commencer et se terminer. Valek, Kostroma et d'autres garçons encore m'accompagnèrent. Grimpant par-dessus le mur de briques, je m'embarrassais dans ma couverture. Je tombais, mais je bondis immédiatement sur mes pieds, comme si le sable m'avait rejeté. De l'autre côté du mur, on riait. Quelque chose me pinça à la poitrine. Un petit froid désagréable me courut sur le dos. En trébuchant, j'arrivai près du cercueil noir. D'un côté, il était enfoncé dans le sable. De l'autre, ses pattes courtes et épaisses surgissaient comme si on avait essayé de le soulever sans y réussir. Je m'assis au bord du cercueil, vers les pieds, et je regardai autour de moi. Le cimetière mamelonné était tout planté de croix grises. Des ombres, se déployant, tombaient sur les tombes et voilaient les monticules ébouriffés de verdure. Çà et là, perdus parmi les croix, des bouleaux, minces et étiques, joignaient par leurs rameaux les sépultures éparpillées. À travers la dentelle de leurs ombres, on entrevoyait des brins d'herbe. L'église s'érigeait vers le ciel, monument de neige parmi les nuages immobiles. La lune, mince et décroissante, étincelait. Le père Yaza sonne paresseusement la cloche de garde. Chaque fois qu'il tire la corde, celle-ci s'accroche à la tôle de la toiture, geint plaintivement, puis le son très sec de la petite cloche retentit, bref et nostalgique. Que Dieu nous préserve de l'insomnie. Je me rappelle cette prière du gardien. Je suis angoissée. J'ai trop chaud, sans m'expliquer pourquoi. Je suis couvert de sueur. Cependant, la nuit est fraîche. Aurais-je le temps de courir au pavillon du gardien, au cas où le vieux Kalinin essaierait vraiment de sortir de sa tombe? Le cimetière m'est familier. 100 fois j'ai joué parmi les sépultures avec le fils Diaza et d'autres camarades. Là-bas, près de l'église, ma mère est enterrée. Tout n'est pas encore endormi. Du faubourg arrivent des rires, des fragments de chansons. Sur les collines, à la carrière de sable près du chemin de fer ou au village de Katisov, un harmonica joue en haletant. Le forgeron Miatchov, éternellement ivre, passe derrière le mur et chante. Je le reconnais à sa chanson. Notre petite mère a de tout petits défauts. Elle n'a jamais aimé personne que seul mon papa. Ces derniers soupirs de la vie me réconfortent. Mais après chaque coup de cloche, le silence grandit. Le calme se répand sur les campagnes comme une rivière. Il noie tout, dissimule tout. L'âme plane dans un vide sans limite et elle s'y éteint, comme la flamme d'une allumette au fond des ténèbres. Enveloppée dans ma couverture, les jambes croisées sous moi, je suis assis sur la tombe, le visage tourné vers l'église. Quand je bouge, le monument grince et le sable craque. Quelque chose tombe sur le sol derrière mon dos, une fois, puis une fois encore. Un morceau de brique me touche presque. Je prends peur. Mais je devine immédiatement que ces projectiles sont lancés de la route par Valek et sa bande et qu'ils veulent m'effrayer. La proximité d'êtres humains me fait au contraire du bien. Je pense à ma mère. Une fois, me surprenant à fumer ma première cigarette, elle m'avait battu et je lui avais dit « Non, ne me donne pas des coups. Je suis déjà bien assez malade. J'ai mal au cœur. » Puis, le châtiment subi, je m'étais assis derrière le poêle et elle avait dit à grand-mère « Un garnement insensible qui n'aime personne. » J'étais révoltée de l'entendre parler ainsi. Quand ma mère me punissait, j'avais pitié d'elle. J'étais gênée pour elle. Rarement le châtiment tombait à propos, et jamais en proportion des fautes. Que de choses humiliantes dans ma vie.
ne serait-ce que ces gens derrière ce mur. Ils savaient fort bien que j'avais peur, tout seul dans ce cimetière. Et ils voulaient me faire plus peur encore. Pourquoi ? J'avais envie de leur crier « Allez au diable !» Mais c'était dangereux. Pouvait-on savoir comment le diable prendrait la chose ? Sans doute était-il là, tout près. Des parcelles de mica, mêlées au sable, brillaient faiblement sous la clarté lunaire. Leur miroitement me fit souvenir d'un jour où, couché sur la digue de l'Oka, je regardais dans l'eau. Tout à coup, presque sous mon nez, un poisson avait émergé et s'était tourné sur le flanc. Il ressemblait à une joue humaine. Il m'avait examiné d'un œil rond, pareil à celui d'un oiseau, puis il avait plongé, en se balançant comme une feuille qui tombe. Ma mémoire travaillait avec une intensité croissante, ressuscitant divers incidents de ma vie, et elle s'en servait pour se défendre contre mon imagination, qui créait obstinément des images terrifiantes. Un hérisson se promène. Ses pattes fermes frappent le sol. Il me fait penser aux lutins. Il est petit et drôle comme eux. Je me rappelle ma grand-mère, accroupie devant le portillon du poêle, qui prononçait une formule magique. « Maître bienveillant, fais périr les blattes !» Bien loin, au-delà de la ville que je ne voyais pas, une clarté apparaissait. Le froid matinal me piquait aux joues. Mes yeux se fermaient. Je me couchais en chien de fusil, la tête cachée sous la couverture. Advienne que pourra. Je fus réveillée par ma grand-mère. Elle était debout, à côté de moi. Tout en rabattant la couverture, elle disait « Lève-toi, n'as-tu pas froid ? Eh bien, as-tu eu peur ?»«
Oui, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire aux autres. »«
Pourquoi ?» demanda-t-elle étonnée. « Si tu n'avais pas eu peur, tu n'aurais aucun mérite. » Nous rentrâmes. En chemin, elle me dit tendrement « Il faut tout essayer soi-même, mon petit. Il faut tout apprendre soi-même. Personne ne le fera pour toi. » Vers le soir, je fus le héros de la rue. Tout le monde me demandait « C'est vrai? Tu n'as pas eu peur? C'est effrayant, n'est-ce pas ?» Et lorsque je répondais « Oui, c'est effrayant !» on s'exclamait avec des hochements de tête « Ah, tu vois !» Quant à l'épicière, elle déclara très haut et d'un ton convaincu « Par conséquent, ils ont menti ceux qui disaient que Kalinine se promenait la nuit. Si c'était vrai, le petit n'aurait pas eu le temps d'avoir peur, le vieux l'aurait saisi et envoyé on ne sait où. » Lyudmila me considérait avec un affectueux étonnement. Grand-père lui-même était visiblement content de moi. Il ne cessait de sourire. Tchourka, seul, dit d'une voix maussade « Ça lui est facile, sa grand-mère est sorcière !» Chapitre 5. Mon frère Kolia s'éteignait peu à peu, comme une petite étoile dans la clarté de l'aurore. Grand-mère, Kolia et moi couchions dans un hangar sur des tas de bois couverts de chiffons. À côté de nous, derrière une cloison de planches toutes fendues, se trouvait le poulailler des maîtres. Le soir, nous entendions les poules repues qui se secouaient et gloussaient en s'endormant. Le matin, nous étions réveillés par un coq doré au gosier sonore. « Oh, que la peste l'étouffe !» murmurait grand-mère ensommeillée. Je ne dormais plus. À travers les fentes du bûcher, les rayons du soleil venaient jusqu'à mon lit. Des poussières argentées y dansaient, des poussières pareilles aux mots dans les contes de fées. Dans les piles de bois, les souris glissaient sans bruit. Des insectes rouges, aux ailes pointées de noir, couraient çà et là. Parfois, fuyant les odeurs étouffantes du poulailler, je sortais du bûcher et je me hissais sur le toit. Là, je regardais, dans la maison voisine, les gens qui se réveillaient, encore aveuglés et lourds de sommeil. Voici la tignasse du batelier Fermanov qui apparaît à la fenêtre.
Mossad et buveur, il grogne comme un porc et regarde le ciel avec des yeux bouffis, à peine visibles. Le grand-père arrive en courant dans la cour. Des deux mains, il lisse ses petits cheveux roux. Il se précipite à la fontaine pour s'y débarbouiller à grande eau. La cuisinière du propriétaire, une fille au nez pointu, toute constellée de taches de rousseur, ressemble à une chouette. Le propriétaire lui-même ressemble à un gros pigeon bien gras. Tous les gens me rappellent des animaux, des oiseaux ou des fauves. Le matin est tendre et rayonnant, mais je me sens un peu triste et j'aimerais aller à la campagne, là où il n'y a personne. Je sais déjà que les gens, comme toujours, souilleront la sereine journée. Une nuit, l'aube pointant, j'étais couché sur le toit. Grand-mère m'appela et me dit à mi-voix en désignant de la tête son lit.
« Kolia est mort !»
Le garçonnet avait glissé de l'oreiller et était couché sur la couverture. Il était tout bleu. Sa chemise, retroussée, laissait voir le ventre gonflé et les petites jambes tordues, couvertes de plaies. Les mains étaient placées d'une manière bizarre à la ceinture, comme s'il avait voulu se soulever. La tête penchait un peu de côté.
« Dieu merci, il est parti !»
dit grand-mère en se coiffant.
« Qu'aurait-il fait, le pauvre infirme ?»
Le grand-père arriva. Piétinant, on eût dit qu'il dansait. Avec précaution, il toucha du doigt les yeux fermés de l'enfant. Grand-mère s'irrita. « Pourquoi le touches-tu avant de t'être lavé les mains ?» Il murmura.
« Voilà, on l'a mis au monde, il a vécu, il a mangé. Et puis, tout d'un coup...
« Si tu divagues, réveille-toi » riposta grand-mère. Il la regarda d'un air sombre et s'en alla dans la cour en ajoutant
« Je n'ai pas de quoi l'enterrer. Arrange-toi. »«
Fou ! Malheureux !»
Je sortis et ne rentrai qu'à la nuit tombante.
On ensevelit Kolia le lendemain matin. Je m'abstins d'aller à l'église. Pendant toute la durée de la messe, je demeurai assis près de la tombe ouverte de ma mère, en compagnie de mon chien et du père Yaza. Il avait rouvert la fosse pour un prix très modique et ne cessait de s'en vanter.
« C'est seulement parce que je vous connais, sinon j'aurais demandé un rouble. »
En regardant au fond du trou jaune d'où montait une odeur étouffante, j'aperçus des planches noires et humides. Au moindre de mes mouvements, les petits tas de sable autour de la fosse s'écroulaient et coulaient en minces filets jusqu'au fond, laissant des rigoles sur les parois. Je bougeais à dessein pour que le sable recouvrît les planches noires.
« Ne fais pas de sottises !»
dit le père Yaza, et il se mit à fumer. Grand-mère apporta dans ses bras le petit cercueil blanc. Le père Yaza sauta dans la fosse, prit le cercueil, le posa à côté des planches noires. Puis, après s'être hissé sur le sol, il se mit à combler le trou, s'aidant de la pelle et des pieds. Sa pipe dégageait des fumées comme un encensoir. Grand-père et grand-mère l'aidaient, sans mot dire. Ni prêtre, ni mendiant. Nous n'étions que nous quatre parmi la foule des croix. En donnant au fossoyeur son salaire, grand-mère lui dit avec reproche
« Tu as tout de même dérangé l'esprit familier de ma fille. »
« Mais comment faire autrement ? Et encore, j'ai pris de la terre ailleurs. Mais c'est sans importance. » Grand-mère fit encore une profonde révérence à la tombe. Elle eut quelques sanglots, quelques gémissements, et elle se mit en route, suivie de grand-père, vêtu d'un habit fripé et se cachant les yeux sous la visière de sa casquette.
« De la graine semée dans une terre non labourée, » dit-il tout à coup.
Et il partit devant nous à grands pas, pareil à un corbeau dans un champ. Je demandai à grand-mère,
« Que raconte-t-il ? » « Ne t'inquiète pas, il a ses idées à lui, » répondit-elle.
Il faisait chaud. Grand-mère marchait lourdement. Ses pieds s'enfonçaient dans le sable tiède. Elle s'arrêtait à chaque instant pour essuyer son visage couvert de sueur. Je lui demandai, en faisant un effort, « Ces choses noires dans la tombe, c'est le cercueil de maman ?»«
Oui, » dit-elle tristement.
« Le fossoyeur est stupide. Il n'y a pas encore un an et Varia est déjà pourrie. Le sable a laissé passer l'eau. De la terre, ça vaudrait mieux.
« Est-ce que tout le monde pourrit ?»«
Oui, excepté les saints. »
« Alors, toi, tu ne pourriras pas !»
Elle s'arrêta, rectifia ma casquette qui avait glissé, et elle ajouta avec gravité « Ne pense pas à des choses pareilles, tu entends ?» Mais moi, je me disais « La mort, quelle chose répugnante et humiliante, quelle abomination !» J'étais atrocement mal à mon aise. Quand nous arrivâmes à la maison, le grand-père avait déjà allumé le samovar et mis la table. Il murmura « Il fait chaud, prenons le thé. Je vous offre de mon thé, à vous deux. » S'approchant de grand-mère, il lui frappa sur l'épaule. « Hein, la mère, qu'en dis-tu ?
Que veux-tu que j'en dise ?
Voilà, le Seigneur est irrité contre nous. Il nous arrache un membre, puis un autre. » Si les familles vivaient bien unies, comme les doigts de la main.
Il y avait longtemps qu'il n'avait parlé sur un ton aussi doux. Je l'écoutais et j'espérais qu'il allait dissiper ma douleur, qu'il m'aiderait à oublier le trou jaune et les planches noires et suintantes. Mais grand-mère l'arrêta sans ménagement.
« Tais-toi, père. Tes paroles, toujours les mêmes, ne remédient à rien. Toute ta vie, tu nous as rongés. » Comme la rouille ronge le fer. »
Grand-père toussa, lui jeta un coup d'œil et se tut. Le soir, au portail, je racontais, plein de douleur, à Lyudmila ce que j'avais vu le matin. Mais mon récit la laissa indifférente. On vit mieux quand on est orphelin. Si mon père et ma mère mouraient, je laisserais ma sœur prendre soin de mon frère. Et moi, je m'en irai au couvent pour toujours. Où aller, sinon là? Je ne peux pas me marier. Je boite. Je ne peux pas travailler. Et puis, j'aurai des enfants infirmes. » Elle parlait raisonnablement, comme une grande personne. Depuis ce soir-là, sans doute, je perdis tout intérêt pour elle. D'ailleurs, la vie s'arrangea de telle sorte que je vis de plus en plus rarement ma camarade. Quelques jours après la mort de mon frère, grand-père me dit « Couche-toi de bonne heure ce soir. Je te réveillerai à l'aurore. Nous irons chercher du bois en forêt. » « Et moi, je ramasserai des herbes, » déclara grand-mère. La forêt, plantée de bouleaux et de sapins, se trouvait près des marais, à 3 kilomètres du faubourg. Très fournie en broussailles et en abatis d'arbres, elle s'étendait d'un côté jusqu'à l'Oka, de l'autre jusqu'à la grande route de Moscou, et reprenait au-delà de la route. Au-dessus de son faîte onduleux se dressait très haut le dôme noir d'une épaisse forêt de sapins, la crête de Savely. Cette vaste futaie appartenait au comte Chouvalov et était fort mal gardée. Des petits bourgeois de Kounavine la considéraient comme leur propriété, ramassaient les osiers, coupaient les broussailles, sans dédaigner à l'occasion le bois vert. À l'automne, les gens venaient en bande, avec des haches et des cordes, s'approvisionner de bois pour l'hiver. Et nous voici, partant tous les trois à l'aurore par les prés verts que la rosée argente. À notre gauche, au-delà de l'Oka, au-dessus des flancs roux des monts Diatlov, au-dessus de la blanche Nijni Novgorod, sur les monticules des jardins verdoyants, sur les coupoles dorées des églises, se lève sans hâte le soleil russe, toujours un peu paresseux. Un vent calme et endormi souffle de l'Oka, lent et trouble. Les boutons d'or, alourdis de rosée, se balancent.
Les encolis se penchent silencieusement vers le sol. Des immortelles multicolores traînent sur une pierraille. La belle de nuit ouvre ses étoiles vermeilles. La forêt s'avance à notre rencontre, comme une armée noire. Les sapins ailés sont pareils à de grands oiseaux, les bouleaux à des jeunes filles. L'odeur aigre des marais flotte sur les champs. Mon chien marche à côté de moi, sa langue rose pendante. Il s'arrête, flaire et secoue sa tête de loup avec perplexité. Vêtu d'une casaque de grand-mère, coiffé d'une vieille casquette sans visière, grand-père cligne des yeux, sourit, on ne sait à quoi, et marche avec précaution, comme s'il se dissimulait. Grand-mère, en corsage bleu, en jupe noire, un fichu blanc sur la tête, roule plutôt qu'elle ne marche, et si vite que j'ai peine à la suivre. Plus la forêt se rapproche, et plus grand-père s'anime. Il aspire l'air par le nez. Il parle d'abord en phrases entrecoupées, indistinctes, puis, comme grisé, il dit des choses belles et joyeuses. Les forêts, ce sont les jardins de Dieu. Personne ne les a semées, seul le vent de Dieu, la sainte respiration de ses lèvres. Autrefois, quand j'étais jeune, à Jégoula, quand j'étais à l'heure, ah, Alexis, tu ne verras pas tout ce que j'ai vu et vécu. Au fond de la Volga, les forêts vont jusqu'à l'Oural. C'est merveilleux, tant c'est immense. Grand-mère le regarde de côté et me fait signe de l'œil. Il trébuche sur une souche et égrène une quantité de paroles brèves que retiendra ma mémoire. Nous conduisions une barque chargée d'huile, de Saratov à la foire, et nous avions avec nous le comptable Kirillo de Pourek et un tatar appelé Asaf. Arrivé à Jégoula, le vent commença à souffler de telle sorte qu'il fallut jeter l'ancre. Nous abordâmes pour faire cuire la soupe. C'était au mois de mai. La Volga était large comme la mer. Les vagues s'y promenaient par troupeaux. On aurait dit des milliers de cygnes voguant vers la Gaspienne. Les montagnes de Jégoula étaient vertes, toutes printanières, dressées vers le ciel. Et au ciel, les nuages blancs moutonnaient. Le soleil fondait de l'or sur la terre. Nous nous reposions, nous admirions, nous étions bienveillants les uns pour les autres. Sur la rivière, il faisait froid et mauvais. Sur le rivage, il faisait tiède et bon. Vers le soir, notre Kirillo, un homme sombre qui n'était plus jeune, se lève tout à coup, enlève sa casquette et nous déclare « Eh bien, les amis, je ne suis plus votre chef ni votre serviteur. Allez-vous-en sans moi. Moi, je vais dans la forêt. » Nous nous regardions effarés. Que faire? Nous ne pouvions pas nous passer d'un employé responsable vis-à-vis du patron. On ne peut pourtant pas exister sans tête. C'était sur la Volga, c'est vrai, mais on peut s'égarer même sur une voie toute droite. Les gens sont parfois des brutes sans raison, qui n'ont égard à rien. Nous eûmes peur. Et lui, il persiste. « Je ne veux plus vivre ainsi. Je ne veux plus être votre gardien. Je veux aller dans la forêt. » Nous étions prêts à le battre et à le ligoter. Et voilà le pilote tatar qui s'écrie « Moi aussi, je m'en vais. » C'était la catastrophe. Le patron lui devait deux voyages. Il avait déjà fait la moitié du troisième, ce qui représentait beaucoup d'argent alors. Nous avons protesté, discuté, crié jusqu'à la nuit. 7 de la bande partie, nous sommes restés 15 ou 16. Voilà ce que c'est que la forêt. Ils sont devenus brigands? Peut-être brigands ou ermites. À cette époque-là, on ne se souciait guère de tout cela. Grand-mère se signe et dit « Très sainte mère de Dieu, quant aux songes, aux actes des pauvres humains, on a pitié de tous. » La raison nous est donnée. Il faut seulement savoir de quel côté le démon vous tire. Nous entrons dans la forêt par un sentier humide, côtoyant des clairières marécageuses et de maigres bouquets de sapins. Je me dis que ce doit être beau de s'en aller pour toujours dans les bois, comme l'a fait Kirio de Pourek. Dans les bois, on ne rencontre ni gens bavards, ni gens querelleurs, ni ivrognes. On y oublie la répugnante avarice du grand-père, la tombe de sable de maman, tout ce qui mortifie et accable le cœur. Arrivés à une place sèche, grand-mère déclare « Il faut casser la croûte. Asseyons-nous. » Dans un sac, elle a un pain de seigle, de l'oignon vert, des concombres, du sel, du fromage blanc. Grand-père considère le tout avec embarras et murmure « Mais moi qui n'ai apporté aucune provision, ma parole !»«
Il y en a assez pour tous !»
Nous nous asseyons, adossés au tronc cuivré d'un gros sapin. L'air est imprégné d'une odeur de résine. De la campagne vient un vent léger. Les branches se balancent. Grand-mère cueille des herbes et me raconte les propriétés curatives du millepertuis et de la bardane. Elle me parle des vertus mystérieuses des diverses herbes de la Saint-Jean. Grand-père coupe des osiers. Je suis chargé de porter sa cueillette à un endroit fixé, mais je me plonge, sans qu'il s'en aperçoive, au cœur de la forêt. Je suis grand-mère qui marche entre les troncs majestueux et qui se penche constamment vers le sol, couvert d'aiguilles de sapin. Tout en cheminant, elle se parle à elle-même. « Il fait trop sec, il y aura peu de champignons. Ah, Seigneur, tu ne prends pas bien soin des pauvres. Pour les pauvres, les champignons sont une friandise. » Je la suis, sans mot dire, avec précaution, veillant à ce qu'elle ne m'aperçoive pas. Je ne veux pas la troubler dans sa conversation avec Dieu, avec les plantes, avec les bêtes. Mais elle me voit. « Tu as lâché le grand-père ?» Et, faisant la révérence à la terre noire, somptueusement vêtue d'une riche chasuble verte, elle me raconte comment, autrefois, dans les temps sans histoire, Dieu, irrité contre les hommes, a recouvert la terre d'eau et a noyé tout ce qui vivait. Et la très sainte Vierge a ramassé à l'avance dans sa poche toutes les graines. Elle les a cachées et elle a dit au soleil « Bon soleil, sèche la terre d'un bout à l'autre. Les hommes chanteront ta gloire pour te récompenser. » Le soleil a séché la terre et la Vierge l'a ensemencée avec les graines qu'elle avait cachées. Et le Seigneur regarde et voit que la terre est de nouveau couverte d'êtres vivants, et d'herbes, et de plantes, et d'animaux, et de gens. « Qui a agi contre ma volonté ?» demande-t-il. Et la Vierge lui avoue ce qu'elle a fait. Le Seigneur, qui voyait avec tristesse la nudité de la terre, répondit à la Vierge « Tu as bien agi !» L'histoire me paraît belle. Mais, étonné, je demande gravement. « Es-tu sûr que tout s'est bien passé ainsi ? La Sainte Vierge est née longtemps après le déluge. » C'est au tour de grand-mère d'être surprise. « Qui est-ce qui te l'a dit ?»« À l'école, c'est écrit dans les livres. » Ma réponse la tranquillisa. « Mon enfant, dit-elle, oublie ce que racontent les livres. Ils mentent, les livres. » Elle sourit d'un sourire intérieur. « Ils en inventent deux belles, ces nigauds. Dieu existait, et il n'aurait pas eu de mère. Allons donc, de qui serait-il né ?»«
Je ne sais pas. » »«
Tu vois, c'est tout ce que tu as appris. Je ne sais pas. » Le prêtre a dit que la Vierge était la fille de Joachim et d'Anne. Grand-mère commence à se fâcher. Plantée devant moi, elle me fixe d'un air sévère. « Si tu as des pensées de ce genre, moi, je te calotterai, tu verras. » Mais immédiatement, elle m'explique. « La mère de Dieu a toujours existé, avant toute chose. Dieu est né d'elle, et ensuite... « Et Jésus, de qui est-il né ?» Grand-mère se tait, embarrassée, elle ferme les yeux. « Et Jésus, de qui est-il né ?» répétai-je. Je vois que j'ai la victoire. que j'ai fait errer grand-mère dans les mystères de la théologie, et j'en suis ennuyée. Nous avançons toujours au plus profond de la forêt, parmi la pénombre bleue transpercée par les rayons du soleil. Dans la tiédeur douce des bois, court une rumeur toute spéciale, rêveuse et évocatrice de rêves. Les becs croisés grincent, les alouettes grisolent, le coucou rit, le merle siffle. Le chant acide du pinson résonne sans arrêt. L'étrange oiseau qu'est le gros bec chante un air mélancolique. Les grenouilles, couleur d'émeraude, sautent sous nos pieds, entre les souches, leurs petites têtes dorées, haut levées. Une couleuvre est allongée et les guette. Un écureuil passe, on entrevoit, au pied d'un sapin, sa queue touffue. On remarque une quantité inouïe de choses, et l'on voudrait en voir toujours davantage, aller toujours plus loin. Entre les troncs des sapins, il me semble que j'aperçois les silhouettes transparentes et vaporeuses de géants qui disparaissent dans l'épaisse verdure. Ça et là, le ciel d'un bleu argenté se montre entre les fêtes des arbres. À mes pieds, la mousse forme un somptueux tapis brodé de buissons d'érelle et de canneberges au fil desséché. Le fruit de la ronce étincelle dans l'herbe en gouttelettes de sang, et l'odeur forte des champignons chatouille le nez. Très sainte Mère de Dieu, lumière du monde, prie grand-mère avec un soupir. Au bois, on la dirait à la fois maîtresse et sœur de tout ce qui l'entoure. Elle marche avec majesté, elle voit tout, elle a des louanges et des remerciements pour tout. Il semble qu'elle répande autour d'elle de tièdes effluves, et quand la mousse qu'elle a foulée se redresse après son passage, j'en suis ravie. Tout en cheminant, je pense. J'aimerais être un brigand. Je pillerais les gens riches et avares. Je donnerais mon butin aux pauvres. Alors, tout le monde serait rassasié et content. On ne serait plus envieux, et l'on n'aboierait plus les uns contre les autres comme des chiens hargneux. J'aimerais aussi aller jusque vers le Dieu de grand-mère, vers sa Sainte Vierge, et leur dire toute la vérité sur la vie lamentable des gens, sur la manière méchante et méprisante dont ils s'enterrent les uns les autres dans le sable pourri. Je leur révélerai combien il y a sur terre des choses irritantes, cruelles et tout à fait inutiles. Et si la Vierge me croyait, je lui demanderai de me donner assez de sagesse pour être capable de tout améliorer. Les gens pourraient m'écouter avec confiance. Je chercherais, moi, la meilleure manière de vivre. Je suis petit, c'est vrai, mais qu'importe. Jésus n'avait qu'un an de plus que moi lorsque les sages l'écoutaient dans le temple. Aveuglé par mes pensées, je tombais dans un trou profond. J'eus la peau égratignée à la nuque et le flanc blessé par une racine. Je restais assis au fond, dans la boue froide, visqueuse comme de la résine. Très honteux, je sentais que je ne pourrais remonter tout seul. Et cependant, je ne voulais pas effrayer grand-mère en criant. Pourtant, je l'appelais. Elle me tira vivement de la fosse et elle dit en se signant « Grâce à toi, Seigneur, c'est heureux que la caverne soit vide, mais si le propriétaire y avait été... » Et elle se mit à pleurer au milieu de ses rires. Puis elle me mena au ruisseau, elle me débarbouilla, elle banda mes plaies avec son mouchoir, après y avoir appliqué des feuilles qui calmaient la douleur. Ensuite, nous restâmes dans la guérite d'un aiguilleur. J'étais trop faible pour rentrer immédiatement. Presque tous les jours, je disais à grand-mère, « Allons à la forêt !» Elle acquiesçait volontiers. Nous passâmes ainsi tout l'été, jusqu'à l'arrière-automne, ramassant des herbes, des baies, des champignons et des noix. Grand-mère vendait nos cueillettes, ce qui nous faisait vivre. « Parasite !» glapissait grand-père, quoique nous ne fussions nullement à sa charge. La forêt faisait naître en moi un sentiment de confort et de paix intérieure. Toutes mes amertumes s'y dissipaient. J'oubliais les choses désagréables et en même temps, une acuité de perception spéciale se développait en moi. L'ouïe et la vue s'aiguisaient. La mémoire devenait plus subtile et le réceptacle de mes impressions plus profond. Grand-mère m'étonnait de plus en plus. Je m'étais habituée à la considérer comme une créature supérieure à tout le monde, la plus sage et la meilleure qui exista. Et elle ne faisait sans cesse que renforcer cette conviction. Un soir, après avoir cueilli des mousserons blancs, nous rentrions à la maison. À l'orée de la forêt, grand-mère s'assit pour se reposer, et je retournai derrière les arbres afin de chercher encore des champignons. Soudain, j'entendis sa voix. Je regarde. Assise au bord du sentier, elle trie et nettoie des champignons, et près d'elle se trouve un chien efflanqué, au poil gris, qui tire la langue. « Va-t'en, va-t'en !» dit grand-mère. « Va-t'en d'ici !» Peu de temps auparavant, Valek avait empoisonné mon chien. J'eus aussitôt envie d'adopter celui-ci. Je courus vers le sentier. La bête eut un mouvement ondoyant bizarre. Sans tourner le cou, elle dardait sur moi le feu vert de ses yeux affamés. La queue entre les jambes, elle fit un bond vers la forêt. Elle n'avait pas l'allure d'un chien. Quand je la sifflai, elle se précipita brusquement dans les buissons. « Tu as vu ?» demanda grand-mère en souriant. « Tout d'abord, je m'y suis trompée, j'ai cru que c'était un chien. Ensuite, j'ai vu ses crocs de loup et aussi son cou. J'ai eu peur, je lui ai dit « Va-t'en, puisque tu es un loup !» C'est heureux que les loups ne soient pas dangereux en été. » Jamais elle ne s'égarait dans la forêt. Elle retrouvait infailliblement le chemin de la maison. Par l'odeur des herbes, elle savait quels champignons on trouvait en un lieu déterminé, et souvent elle m'interrogeait. « Quel arbre le pleurote aime-t-il ? Comment distingues-tu le bolet comestible du faux bolet ? Où faut-il chercher les mousserons ?» Par d'imperceptibles égratignures sur les troncs, elle m'indiquait les creux des arbres où nichent les écureuils. Je grimpai sur l'arbre et je vidai leur nid. Je m'emparais des provisions de noix faites pour l'hiver. Parfois, j'en trouvais jusqu'à 10 livres dans une seule cachette. Une fois que j'étais ainsi occupée, un chasseur m'envoya, dans le côté droit du corps, 27 plombs de petites grenailles. Grand-mère réussit à en extraire 11 à l'aide d'une aiguille. Les autres restèrent de longues années dans ma chair et en sortirent peu à peu. Grand-mère fut satisfaite de voir que je savais supporter patiemment la souffrance. « Bravo, dit-elle, tu as de la patience. Tu auras donc aussi de la sagesse. » Chaque fois qu'elle réunissait une petite somme en vendant des noix et des champignons, elle la distribuait en aumônes secrètes, disposées sur l'appui des fenêtres. Elle se contentait, même le dimanche, de vêtements rapiécés. « Tu as l'air plus misérable qu'une mendiante. Tu me fais honte !» grommelait grand-père. « Qu'est-ce que ça fait ? Je ne suis pas ta fille, ni en âge de me marier. » Leur querelle devenait de plus en plus fréquente. « Je ne suis pas un plus grand pécheur que les autres, » criait grand-père d'un ton offensé, « et je suis puni plus que les autres. » Grand-mère le taquinait. « Les démons savent très bien ce que vaut chacun. » Et quand nous étions seuls, elle disait « Il a peur des démons, mon vieux bonhomme. Il vieillit vite, uniquement de peur. Ah, le pauvre homme !» Pendant l'été, je m'étais beaucoup fortifiée. J'étais aussi devenue sauvage. Je n'éprouvais plus d'intérêt pour la vie de mes camarades et leur rivalité, ni pour Lyudmila, dont la sagesse me paraissait ennuyeuse. Un soir, grand-père rentra de la ville, tout mouillé. C'était l'automne et il pleuvait. Il se secoua sur le seuil, comme un moineau, et déclara avec solennité « Eh bien, petit rôdeur, demain tu entres en place. »
« Où encore ?» s'informa grand-mère irritée.
« Chez ta sœur Matryona, chez son fils. »
« Oh, quelle malheureuse idée, père !»«
Tais-toi, sotte. Peut-être fera-t-il de lui un dessinateur. »
Grand-mère baissa la tête sans rien ajouter. Le soir, je dis à Lyudmila que je m'en allais en ville, que j'allais y vivre.
« Moi aussi, on m'y mènera bientôt, »
m'annonça-t-elle pensive. « Papa veut qu'on me coupe complètement la jambe. Ensuite, je serai tout à fait bien portante. »
Pendant l'été, elle avait maigri. La peau de son visage était devenue bleuâtre et ses yeux avaient grandi.
« Tu as peur ?» lui demandai-je.
« Oui, » répondit-elle, et elle se mit à pleurer silencieusement. Je n'avais aucune consolation à lui offrir. J'avais peur moi-même d'aller vivre à la ville. Nous restâmes longtemps assis, serrés l'un contre l'autre, plongés dans un lugubre silence. Si nous avions été encore en été, j'aurais demandé à grand-mère de prendre la besace et d'aller mendier comme elle le faisait quand elle était fillette. Nous aurions emmené Lyudmila avec nous. Je l'aurais traînée dans un petit char. Mais c'était l'automne. Un vent humide soufflait dans les rues. Le ciel était voilé de perpétuels nuages. La terre s'était ridée. Elle était devenue sale et triste.